tous et à toutes. Vous m'entendez bien?
Oui.
Je vais essayer de parler assez fort. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir déconsidéré, méprisé ou maltraité? Quand je parle de maltraitance, je ne parle pas simplement de violence physique, mais du fait de ne pas être traité comme on aurait dû le faire à votre égard. On vous a mis de côté, on n'a pas reconnu vos capacités, vos compétences, on n'a pas tenu compte de vos expériences, on vous a traité de manière indigne. On vous a blessé par le fait que l'on vous a humilié. On vous a traité d'une manière qui n'était pas à la hauteur de ce que vous êtes. Ça peut arriver. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse examiner un épisode de la vie de Jésus, au moment où il est proche de la croix, qui parle justement de ce moment où Jésus a été dévalorisé, abaissé, humilié. On va voir comment Jésus a réagi à cette blessure qui pouvait toucher à sa dignité. Et on va voir aussi comment nous pouvons réagir par rapport à cette question de l'indignité, de l'injustice, de la dévalorisation que l'on peut connaître dans sa vie. Je vous propose de lire Marc 15, versets 25 à 28. Court passage, Marc 15, versets 25 à 28. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Je ne sais pas quoi vous pensez quand vous réfléchissez au moment où Jésus a été mis sur la croix. La plupart du temps, quand on pense à la mort de Jésus, on pense à ses souffrances physiques. C'était, nous a-t-il dit, 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film de Mel Gibson, hein, La Passion du Christ. Effectivement, Mel Gibson a mis en avant, il a voulu montrer les nombreuses souffrances que Jésus a subies, a endurées. Il a montré les clous qui ont déchiré ses mains, ses pieds, la couronne d'épines qui a laboué son crâne, son dos lacéré par des coups de fouet. Et je crois que c'est juste de souligner les souffrances physiques qu'a subies Jésus. Notre corps a été l'instrument du péché, et il fallait donc que Jésus souffre aussi dans son corps pour expier la totalité de nos péchés. Bien que ce corps n'a jamais été qu'au service du bien, Jésus a dû souffrir dans son corps à cause de nous. Mais au-delà de la souffrance physique qu'a connue Jésus, il y a une autre souffrance, moins visible peut-être que celle-ci, que Jésus a connue. C'est le déshonneur, la honte qui s'est attachée à son nom, à sa personne, la dévalorisation complète dont il a été l'objet au moment où il a été mis sur la croix. Il a été compté parmi les criminels. Jésus, le Fils éternel de Dieu, celui qui fait toute l'affection du Père, qui est le sujet de l'adoration de tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu, a été mis au nombre des malfaiteurs. Quand on parcourt les évangiles, on se rend compte que ce n'est pas la première fois ici que l'on porte atteinte à la dignité de Jésus. Pratiquement toute sa vie, Jésus a été déconsidéré, dévalorisé, amoindri dans sa dignité. Dans Marc 3, 21, il est dit, parole surprenante, Lorsqu'ils apprirent ce qui se passait avec Jésus, les membres de sa famille vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Il a perdu la raison. D'ailleurs, ce que je vais partager, ça va dans le sens de ce que Freddy a partagé. Pour qui ? Qui est pour vous Jésus ? Pour sa famille, il était devenu fou, c'était un illuminé, un fanatique. Il fallait l'arrêter. Ça, c'est Marc 3, 21. Marc 3, 22, le verset qui suit, je n'avais jamais remarqué que ces deux versets se suivaient d'ailleurs. Il est dit, les spécialistes de la loi venus de Jérusalem disent de Jésus, il a en lui Belzébuth. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Est-ce qu'on peut porter atteinte d'une manière plus grave à la dignité de Jésus ? Les spécialistes de la loi ne trouvaient pas Jésus sympathique. Ils n'étaient pas français alors. Mais les Français, je pense, n'auraient pas traité mieux Jésus. Jésus a dit à ces hommes, « Tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils ont proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il mérite une condamnation éternelle. Il n'y a pas de crime plus grave que d'attribuer à Satan les œuvres du Saint-Esprit accomplies par Jésus. » Donc Jésus a été, toute sa vie, il a dû faire face justement au fait d'être déconsidéré, de ne pas être reconnu pour ce qu'il est. Et ce n'est pas étonnant que au moment où Jésus meurt, il est mis au nombre des criminels, au nombre des malfaiteurs. Qui est Jésus pour vous ? La question est posée. Si nous sommes chrétiens, on l'a dit, c'est le plus merveilleux nom. C'est la personne la plus admirable, la plus extraordinaire qui est vécue ici-bas, le plus merveilleux. Pour le monde, Jésus est à mettre au rang des criminels. Peut-on imaginer qu'à côté des noms de Hitler, Staline, Pol Pot, vous connaissez peut-être, Mao Tse-tung, le monde a mis Jésus. On réalise ça, ce que Jésus a subi. À quel point il était déconsidéré pour être mis sur la liste des grands criminels, des criminels ou des malfaiteurs, des gens nuisibles, ceux qui font mal. C'est ça un malfaiteur. Parmi les malfaiteurs, il y a Al Capone, il y a les parrains des différentes mafias qui sont dans le monde. Jacques Mérine, je ne sais pas si vous vous rappelez de Jacques Mérine. Certains peut-être. Hein. Ennemi public numéro un de la France dans les années 70. Michel Fourniret, Marc Dutroux, voilà des malfaiteurs. Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs. Ésaïe dit de lui, méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Par la crucifixion et la description de la souffrance qu'a vécu Jésus, on a une idée de ce que son corps a pu connaître, de ce qu'il a subi, de ce qu'il a enduré. Mais en même temps qu'il a vécu quelque chose dans son corps, dans la souffrance, Jésus vivait aussi quelque chose dans son âme. Et Ésaïe nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même de sa dignité. Pendant que les soldats ôtaient à Jésus ses vêtements, à l'extérieur, à l'intérieur, Jésus se déshabillait de toute la dignité qui était la sienne. Il était d'accord d'être considéré comme un criminel. Je suis le Fils unique de Dieu le juste, mais j'accepte d'être traité comme un malfaiteur, un être nuisible pour la société, un être qui ne mérite que le rejet, le bannissement et la mort. Je le fais volontairement pour que ceux qui devraient être traités par mon Père comme cela, comme tel, ne le soient pas, mais que je le sois à leur place. C'est cela que Jésus a vécu à la croix, la perte de sa dignité. L'apôtre Paul a bien compris le sens profond de la croix dans Philippiens 2 quand il dit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver à tout prix, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même sur la mort sur la croix. C'est intéressant là que, bien sûr, quand on voit la mort de Jésus, sa souffrance, on se dit c'est les autres qui le dépouillent, c'est les autres qui l'humilient. Mais les textes inspirés nous disent c'est Jésus qui s'est dépouillé lui-même, qui s'est humilié lui-même. Si Jésus n'avait pas donné son accord à cette humiliation, les hommes n'auraient rien pu faire. Jésus a accepté d'être ainsi abaissé. En fait, Jésus a vécu un triple abaissement. D'abord, il a renoncé à être reconnu comme Dieu. C'est ce qu'il nous a dit. Il est reconnu comme un simple homme. Ensuite, il n'a pas cherché à être servi. Il s'est présenté comme un serviteur. Et puis le troisième abaissement, c'est qu'il a été prêt à être considéré comme un criminel, comme un être nuisible, et condamné comme tel. C'est là la souffrance qu'a vécu Jésus pour nous, pour notre salut. Il a été mis au rang des malfaiteurs, et il ne s'est pas défendu. On va revenir maintenant aux questions que nous nous sommes posées au début de ce message. Comment est-ce que nous réagissons? Comment est-ce que nous vivons la déconsidération, l'abaissement que nous pouvons connaître, l'humiliation dont nous pouvons être l'objet de la part de nos semblables? Le premier point, c'est que nous devons être conscients que si Jésus, à cause de sa dignité, n'a pas été traité selon ce qu'il méritait, nous ne sommes pas traités par Dieu au regard de notre indignité selon ce que nous méritons. Vous avez suivi? Je le redis. Si Jésus, à cause de sa dignité, n'a pas été traité selon ce qu'il méritait, nous, par contre, nous ne sommes pas traités par Dieu au regard de notre indignité selon ce que nous méritons. Connaissez le psaume 103, où David écrit « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère, riche en bonté, il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. » Et il y a cette phrase magnifique que je dois souvent me rappeler. « Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. » Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Nous devons être conscients quand nous sommes abaissés, humiliés. Certes, ce n'est pas agréable. Mais la première chose dont nous devons nous rappeler, c'est que si Dieu nous traitait comme nous méritions de l'être, nous souffririons encore bien plus. Et si Jésus le juste a consenti à être humilié, nous pécheurs, ne pouvons-nous pas accepter aussi l'humiliation par moment? Jésus aurait eu le droit de regimber, de se défendre, de manifester sa justice. Il ne l'a pas fait. Il est pour nous un exemple. La deuxième chose, donc la première chose, c'est qu'on doit se rappeler que nous ne sommes jamais traités aussi mal que nous devrions l'être. La deuxième chose, c'est que nous devons imiter Jésus. Comment Jésus a-t-il réagi lorsqu'il a été humilié. Alors il y a des témoins, il y en a un particulier qui était bien placé pour se rendre compte de cela, c'est l'apôtre Pierre. Et dans sa première épître, il nous rappelle comment Jésus a réagi. Il dit « De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis le péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » La réaction de Jésus, c'est de ne pas répondre au mépris du monde à son égard. Jésus a triomphé du mépris du monde en méprisant le monde, en quelque sorte, en méprisant la façon dont le monde le traitait. Hébreux 12:2 nous dit que Jésus a méprisé la honte, l'ignominie. L'ignominie, c'est un grand déshonneur public, ça veut dire. L'apôtre Pierre, qui était témoin de ce que Jésus a vécu, ne supportait pas que Jésus soit traité de cette manière. Vous vous rappelez? Il a pris l'épée et puis il a tranché l'oreille du soldat qui venait arrêter Jésus. Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Vous êtes venu vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme pour un brigand, aura-t-il dit. Jésus n'a pas réagi à l'humiliation par les armes que les autres, que ses ennemis utilisaient pour l'attaquer. Et ça, c'est aussi une leçon pour nous. Quand nous sommes humiliés, nous avons souvent, la première réaction, c'est que nous voulons prendre les mêmes armes, hein, nous défendre. Attaquer l'autre, le blesser aussi à son tour, comme Pierre. Mais quand nous commençons à utiliser ces armes, alors que nous étions peut-être justes jusqu'à ce moment, nous devenons injustes. Nous commençons à blesser les autres, à leur faire du mal. Jésus n'a pas utilisé l'épée de fer, il a utilisé le bouclier de la foi. Il s'en est remis à celui qui juge justement. Peu importe ce que les autres pensaient de lui, Jésus savait qu'il y en a un qui sait la vérité sur lui et qui saura la rétablir un jour. Et ça, c'était la bonne façon de réagir de Jésus. S'en remettre au Père pour être réhabilité. C'est la troisième réaction de Jésus. On a lu tout à l'heure Philippiens 2 où on a vu les différentes étapes de l'abaissement de Jésus. Et suite à ces versets, il est dit, c'est pourquoi, parce que Jésus a consenti à cet abaissement, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quel contraste, n'est-ce pas? Jésus est considéré comme un criminel mis au nombre des malfaiteurs. Dieu le réhabilite par la résurrection, lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira un jour et reconnaîtra que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et l'apôtre Paul fait un lien direct entre l'abaissement de Jésus et sa réhabilitation. C'est pourquoi, dit-il, Dieu l'a élevé. Il y a un lien direct, un lien de cause à effet entre l'humiliation que Jésus a subie et la gloire qui va suivre. Et c'est un encouragement aussi pour nous. Peut-être tu ne seras pas réhabilité. Il est possible, et les apôtres ont vécu cela aussi, que tu sois humilié, abaissé, même crucifié un jour, condamné, alors que tu es juste. Et notre justice est très relative, hein, à côté de celle de Jésus. Notre identité spirituelle d'enfant de Dieu peut être niée, bafouée. mais nos humiliations ne sont pas sans lendemain. Elles accumulent pour nous un poids de gloire, dit Paul, qui nous sera donné dans l'éternité à cause des souffrances que nous aurons subies pour Jésus. C'est le premier encouragement de l'exemple de Jésus. Et le second, c'est que nous n'avons pas besoin de prendre nous-mêmes notre défense en main. Jésus, Dieu, va nous réhabiliter. La justice de Dieu passera un jour. Chacun sera traité selon sa propre justice, enfin la justice qui sera la sienne, bien sûr. On est sauvé par grâce, on le sait. Mais Dieu réhabilitera toute chose. Au temps où les prophètes vivaient sur terre, ceux de sa génération les ont bafoués, ils ont été sciés, torturés, crucifiés, enfin pas crucifiés à l'époque, mais tués en tout cas. Et Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, « Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, vous ornez les sépulcres des justes et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. » Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. C'est intéressant parce que ces hommes qui avaient la même attitude que ceux qui ont tué les prophètes, leurs pères, ils étaient en train de construire des mausolées. Ils réhabilitaient les prophètes alors que leurs pères les avaient condamnés. Un jour, tous les justes seront réhabilités. Et ceux qui les ont condamnés seront condamnés à leur tour. C'est un encouragement pour nous. Donc je vous rappelle ces trois réactions. La première, c'est que nous ne sommes pas traités comme nous devrions l'être. On doit toujours s'en rappeler. La deuxième, c'est que Jésus n'a pas réagi par l'épée. Il a utilisé le bouclier de la foi. Et la troisième, c'est que nous pouvons savoir que Dieu va nous réhabiliter, va réhabiliter la justice un jour. Il est notre bouclier, notre défenseur, notre avocat. Et nous n'avons pas besoin de prendre nous-mêmes notre cause en main. Alors, je voudrais terminer ce message en parlant de la considération que nous devons avoir pour les autres, les uns pour les autres dans l'Église. Parce que, bien sûr, s'il est normal que nous soyons déconsidérés dans le monde, entre nous, la Bible nous dit, Romains 12, 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » J'aime bien ce terme, « rivalisez d'estime réciproque. » Et la Bible nous donne, peut-être vous en trouverez d'autres, mais j'en ai recensé 8, huit cas de personnes pour lesquelles nous devons avoir de la considération dans l'Église. Bien sûr, entre nous tous, ça devrait exister. D'abord, les serviteurs de Dieu. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Alors ici, quand même, c'est important, de la considération pour ceux qui travaillent. C'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on doit être l'objet de la considération, mais si on travaille. La considération, elle vient aussi parce qu'il y a quelque chose qu'on reçoit. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Si je veux de la considération et que je fais rien, ben ça va pas. Les jeunes serviteurs de Dieu, que personne ne méprise ta jeunesse, c'est 1 Timothée 4:12, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Donc c'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit être méprisé, mais en même temps, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Troisième catégorie, les vieillards et les veuves. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves, celles qui sont véritablement veuves. Il y a quelques semaines, j'avais demandé à l'INSEE quand est-ce qu'on est vieux. Elle m'a dit 70 ans. Donc je dois attendre 3 ans pour attendre d'être considéré. La femme envers son mari et le mari envers sa femme. La femme doit considérer son mari, le mari doit considérer sa femme. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Ah voilà, Lydia, tu sais comment m'appeler maintenant. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Hein, Pierre 3, 5 à 7. Cinquième catégorie de personnes, les parents. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Sixième catégorie, les petits. Si quelqu'un scandalisait ou faisait trébucher un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Matthieu 18, 6. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges, dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Septième catégorie, ceux qui ont des convictions différentes des nôtres sur des points secondaires de la foi. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Et huitième catégorie, plus surprenante, mais c'est juste, ceux qu'on a surpris en faute. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Il n'est pas dit, si quelqu'un était surpris en faute, méprisez-le, regardez-le de haut. Non, relevez-le avec un esprit de douceur, conscient de votre propre fragilité. En conclusion, j'aimerais juste vous donner deux versets. S'il t'arrive cette semaine d'être blessé dans ton amour-propre par le mépris dont tu es l'objet de la part d'un semblable, d'abord j'aimerais t'encourager par le fait que Dieu est avec toi, il n'est pas pareil que ceux qui te méprisent. Ésaïe 57, 15, je l'ai lu dans une autre traduction dont t'as peut-être moins l'habitude, mais il est dit, « Par ainsi parle celui qui est haut et élevé, qui demeure en perpétuité et dont le nom est saint. Haut placé et saint je demeure, tout en étant avec celui qui est broyé et qui en son esprit se sent rabaissé. Pour rendre la vie à l'esprit des gens rabaissés, pour rendre la vie au cœur des gens broyés. Le Dieu qui est saint, qui est digne de louange, qui nous dépasse, il n'est jamais méprisant. Au contraire, il est celui qui est proche de ceux qui sont abaissés, broyés, et il est là pour les relever. Et dans 2 Timothée 2, versets 8 et 9, j'ai bien aimé ce verset. Il est dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » On aurait pu s'attendre à ce que Paul dise, puisqu'il était traité comme un malfaiteur lui aussi, « Souviens-toi de Jésus-Christ crucifié. » Mais il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. » Par là, il veut souligner que Jésus a été réhabilité. Jésus a été relevé, il a été déclaré juste. Et on peut se souvenir, quand on est rabaissé, de Jésus-Christ ressuscité, de la justice de Dieu qui passera un jour, et faire comme Jésus, nous en remettre à celui qui juge justement et en vérité. Mieux vaut être pour toi reconnu par Dieu que par les hommes. Car c'est le jugement de Dieu et c'est le verdict de Dieu sur nous qui sera finalement notre gloire ou notre honte, non pas ce que les hommes pensent de nous. Amen.